Maud, bienvenue. Je m'appelle Roby. Comme Samuel vous a dit, on accueille Sarah, Alex et Cohen, et la maman de Sarah, je pense. On est dans la joie devant l'arrivée, et Nathalie aussi. C'est coucou. Voilà, on est dans la joie devant la naissance de petit Cohen. Et voilà, bienvenue à vous si vous êtes là pour la première fois. Ce que nous essayons de faire chaque semaine, c'est de mettre la parole de Dieu au centre. Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que moi j'ai à dire, ce n'est pas ce que Samuel a à dire, c'est ce que Dieu nous dit. Et donc c'est pour cela que nous ouvrons la Bible ensemble. Donc si vous avez la Bible devant vous, ça serait excellent de la prendre en main. Et nous sommes en Matthieu 25. Il y en a quelques Bibles un peu partout, vous pouvez partager entre vous. Matthieu 25, à la page 985, si vous avez la Bible comme cela. Vous pouvez allumer votre Bible si vous préférez lire ça électroniquement. Matthieu chapitre 25, et les 13 premiers versets. Nous analysons un peu les paraboles de Jésus, les histoires très vives qui nous racontent des réalités essentielles. Donc Matthieu 25, et je vais prier. Prions ensemble. Notre Père, combien nous te louons, parce que ta parole est la vérité. Donne-nous des oreilles pour entendre ce matin, que nous puissions comprendre le message de ta parole ce matin, et que nous puissions réagir d'une façon qui t'honore face à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Normalement, il y a une feuille pour les enfants qui ont plus de 7 ans, qui sont là. Si vous avez des enfants de 0 à 6 ans, vous êtes les bienvenus de les prendre à l'étage. Les enfants de 7 et au-dessus ont une feuille pour suivre. Alors, la lecture, Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne priaient point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormaient. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. » puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. La fin du monde. La fin du monde. Est-ce que vous y croyez? Une drôle de question, peut-être, pour commencer. Et si oui, quelle en sera la cause? Il y a des gens qui pensent que le monde va juste continuer à tourner. Mais d'autres pensent qu'il y aura une fin, à un moment donné. Mais pourquoi? Peut-être l'impact d'un astéroïde qui va, boum, la Terre détruite. Un âge de glace, peut-être, comme le film, vous avez vu le film? Oui, le 4 films, l'âge de glace. Une guerre nucléaire, je pense que c'est ça, la Russie, l'Iran, les États-Unis. Un désastre biologique, le manque de ressources naturelles. Mais la Bible dit que la fin du monde arrivera. Et c'est certain, c'est une certitude. Mais pas pour ces raisons que je viens d'évoquer. La Bible dit que Dieu lui-même va mettre fin à l'histoire humaine. Comment? En envoyant son propre Fils. Jésus-Christ, celui qui est venu sur terre il y a 2000 ans, Dieu fait homme, est descendu vers nous, il est mort sur la croix pour nous offrir le pardon. Il est ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel, il attend. Et un jour, il va revenir pour mettre fin à l'histoire humaine. Et à ce moment-là, ce sera le jour du jugement. Est-ce que vous y croyez? Car Jésus en parle très souvent. Et la question pour nous tous, c'est, y sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour ce grand jour? Le jour à la fin de l'histoire, quand nous rencontrerons Dieu comme notre juge. Quand ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seront sauvés, et quand ceux qui ont rejeté Jésus, qui l'ont gardé à distance dans leur vie, seront rejetés. Mais Jésus nous raconte cette parabole ce matin, pour nous dire qu'il faut être prêt pour le retour de Jésus, même si sa venue tarde à venir, même s'il y aura un long délai avant qu'il revienne, il faut être prêt dans la durée. Jésus nous raconte une parabole sur un mariage, n'est-ce pas? Un époux qui revient et des jeunes filles qui vont à sa rencontre pour la fête des noces. Et nous avons deux mariages qui approchent au sein de l'église. Nous avons Julien et Lynn. Ils ne sont pas là, je pense que Julien aide avec les enfants au mois de septembre. Arsène et Alice. Et voilà, Jésus nous dit que cette histoire sur ce mariage va nous enseigner quelque chose sur le retour de Jésus. Vous voyez sur verset 1, merci de regarder au verset 1, Jésus dit ceci, « Alors le royaume des cieux sera semblable à... » Alors, c'est au moment de mon retour, la fin des temps. Alors, à ce moment-là, le royaume des cieux sera semblable à... Ah, parce que tout le chapitre 24, Jésus est en train de parler de son retour à ses disciples, la fin du monde. Et le chapitre 25 continue cela. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre sur le retour de Jésus? Mais j'ai besoin de quelques volontaires qui vont m'aider à jouer à l'histoire. Donc j'ai besoin de... Dans l'histoire, nous avons 10 jeunes filles. Donc peut-être 2 seraient très bien si on a 2 jeunes filles, 2 enfants. Est-ce qu'on en a? Pas tellement, oui. Vous voulez venir? Vous pouvez nous aider avec ça? Oui? Et un garçon, on a besoin d'un garçon pour être l'époux. Qui veut être le garçon, l'époux? Allez, un peu de courage. Sinon, je vais nommer les gens. Alors, l'époux, qui sera l'époux? Tu veux le faire? La dernière fois, tu étais tellement fort. Oui? Tu veux? Oui. Oui, 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 vas-y, bien, bien. Merci. Ouh. Alors, Leslie, tu peux être une des filles, merci. Et est-ce qu'on a une autre fille? Tu veux? Oui? Tu veux venir? C'est super, tu peux te mettre à côté, Leslie, très bien. Alors, ici, nous avons l'époux et nous avons 10 jeunes filles ici. Et on va dire 5 ici et 5 ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ils avaient des lampes. Elles avaient des lampes. Donc, je vais vous chercher les lampes. Ici. Oh, voilà. Ici, on a des lampes. Ce n'est pas comme ce qu'on a maintenant avec les GSM. Mais pour voir lorsqu'il faisait nuit, il fallait mettre de l'huile sur ça. Et moi, j'ai des allumettes, donc tout va bien. Non, je ne pense pas qu'on va faire ça. Mais voilà. On met de l'huile sur ça. Et ça, comme ça, il y a une belle flamme. Et on va faire la procession pour l'époux plus tard. Ça va? Très bien. Non? Voyons ce qui se passe dans l'histoire. Nous avons 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. 5 sont folles et 5 sages. Alors, on va dire que voici des sages filles, ça va? Et des filles insensées. Il n'y a pas de jugement contre toi. T'inquiète. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Verset 3, qui peut nous dire quelle est la différence? Qu'est-ce que les sages, elles ont fait? Ils ont apporté d'huile avec elle. Voilà, ici, vous avez l'huile pour les 5, ça va? Mais Leslie n'a pas pensé prendre l'huile. Elle ne pensait pas en avoir besoin. Mais voilà, verset 4, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, L'époux tardé, verset 5, l'époux tardé, peut-être il se coiffait, peut-être, on ne sait pas ce qu'il faisait, ou peut-être il négociait pour le dot. Voilà, les parents étaient un peu exigeants, et donc voilà, ça a duré. Et donc, comme verset 5, l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormaient. Donc vous pouvez vous endormir sur le sol, très bien, bravo, voilà. Très bien, ils sont en train de dormir. Et vous pouvez, voilà, ils sont endormis. Et Jésus ne leur reproche pas le fait de s'endormir. Vous voyez ça, tous les deux, sages et folles, s'endorment. Donc, ce n'est pas le fait de s'endormir, ce n'est pas un problème. C'est juste que l'époux tardait, ce qui est normal. Maintenant, c'est des épouses qui, voilà, au début, qui arrivent un peu en retard. Mais ici, dans l'époque, c'était l'époux. Et subitement, verset 6, les filles sont réveillées avec une cri. Qu'est-ce qu'ils disent ? On va tous dire ça. On cria, 1, 2, 3, verset 6. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparaient la lampe. Allez-y, préparez vos lampes. Et les folles disent aux sages, qu'est-ce que vous allez dire aux filles sages? Donnez-nous de l'huile.
Donnez-nous de l'huile.
Et parce que ça ne marche plus. Toute l'huile est partie avec le délai. Avec le retard de l'époux. Oh, ça ne marche plus. C'est embêtant, ça. Mais, verset 9, qu'est-ce que les sages répondent? Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et nous, on dit ça, on se dit, mais elles sont méchantes, ces filles. Elles devraient partager. Mais non, s'il n'y avait pas suffisamment pour les deux, il n'y aurait pas du tout de gens pour accompagner l'époux. Donc, en fait, voilà, ils disent, non, on doit garder ça pour nous-mêmes. Et toi, tu dois aller chercher ça chez le vendeur. Donc, voilà, Samuel va vous vendre de l'huile, là-bas. Donc, toi, tu pars pour l'huile. Et donc, le verset 10, qu'est-ce qui se passe? Pendant que elles allaient en acheter, l'époux arriva. Voilà. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et donc, vous pouvez aller par là, la salle des noces. Voilà, magnifique. Et qu'est-ce qui se passe derrière eux? Qu'est-ce qui se passe? La porte. Et donc, verset 11, qu'est-ce qui se passe? Tu as mis, maintenant?
Oui.
Tu as mis?
Oui.
Super, tu es prête?
Oui.
Tu penses être prête, mais on va voir. Verset 11, les autres jeunes filles viennent et dire, ici, tu dois frapper un petit peu. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Et donc toi, tu dois rentrer triste, parce que tu ne vas pas être à la fête. Voilà, merci. Merci, super, très bien, merci beaucoup. Et tout cela sans brûlure, donc c'est excellent. Voilà la conclusion de Jésus, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Dans l'histoire, nous avons 10 filles qui se ressemblent fortement. N'est-ce pas? Elles sont tous invitées au mariage. Elles sont tous là, elles connaissent toutes l'époux. Elles ont montré une envie d'accueillir l'époux. Elles savent que l'époux va revenir. Mais en fin de compte, seulement 5 d'entre elles étaient prêtes. Vous voyez ça, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. 5 étaient rejetées par Jésus, car elles n'étaient pas prêtes, et 5 étaient acceptées dans la joie. Le symbolisme n'est pas très difficile à comprendre, n'est-ce pas? L'époux, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'époux était Dieu lui-même, l'époux de son peuple. Et lorsque Jésus vient sur scène, sur terre, il reprend ce titre pour lui-même, en disant, c'est moi l'époux. Et l'époux reviendra. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. À la fin de l'histoire humaine, l'époux reviendra. On ne sait pas quand, mais ça va nous sembler comme si l'époux tarde. Comme si l'époux tardait. Verset 5, voyez cela? Comme l'époux tardé. Il ne faut pas chercher des sens précis, je pense, pour les torches, l'huile et tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons être prêts pour le retour de Jésus, même après un long délai. Et donc, voici deux points que nous devons retirer de l'histoire. Premièrement, le retour de Jésus révélera qui est véritablement chrétien. Le retour de Jésus révélera qui est véritablement chrétien. À la base, tous les filles se ressemblaient. On ne remarquait aucune différence entre elles. Ce n'était qu'au moment du retour de l'époux qu'il était clair que la moitié n'y était pas prête. Jésus raconte cette parabole probablement en faisant référence à tous ceux qui professent d'avoir foi en Jésus. Il a déjà raconté une parabole pour dire « Ce sera comme au jour de Noé. » Les gens mangeaient, buvaient, et puis boum, le déluge arrive. Ça, c'est probablement les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la religion, qui continuent leur vie. Et Jésus va venir comme un voleur. Mais ici, il s'adresse à des gens qui... Ils ont une connaissance de Jésus. Ils savent que Jésus va revenir. Mais il dit, attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous serez prêts pour mon retour? Parce que nous, on se ressemble un petit peu ici, n'est-ce pas? On chante ensemble. On baisse la tête quand quelqu'un prie. On dit Amen ensemble. Mais la réalité choquante de cette parabole, c'est que parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui ne le sont pas, vraiment. Même ici dans cette église, il y a peut-être des gens qui se disent croyants, mais qui en réalité n'ont jamais courbé le genou devant Jésus. Ils ne lui ont jamais demandé pardon pour leur faute. Et cette parabole nous dit que c'est au moment du retour de Jésus que tout deviendra clair. Et cette parabole nous dit aussi qu'il y aura un délai avant le retour de Jésus. Parfois les gens disent, mais vous dites que Jésus va revenir. Mais où est-il, ce Jésus? Où est-il? Peut-être cela vous a passé par l'esprit. Il a dit qu'il allait revenir, mais voici, 2000 ans plus tard... Mais heureusement, Jésus nous a donné ce genre de passage pour nous avertir qu'il y aura un délai, verset 5, comme l'époux tardé. Et si on sait cela, on sera préparé pour attendre. Comme si vous pensiez qu'un trajet vous prendra 10 minutes et cela vous prend 2 heures. C'est ennuyant, n'est-ce pas? Vous dites, oh. Ou si vous pensez que le bébé va arriver à peut-être 38 semaines, vous espérez, vous aimez bien, et puis à 42, jusqu'à 42 ou 41 semaines, le bébé n'arrive pas. C'est presque invivable, ce genre d'attente, parce que vous n'étiez pas préparé pour cela. Et pour être chrétien, il faut être prêt à l'être dans la durée. Pas pendant quelques temps seulement, quand cela nous arrange. Quand il est bienvenu d'aller à l'église ou de croire à la moralité de la Bible, mais aussi lorsqu'il n'est pas bienvenu d'aller à l'église, lorsqu'on vous persécute pour vos croyances. La vie chrétienne n'est pas une course de 100 mètres. Est-ce que vous avez fait ça à l'école? Des courses de courte distance, et vous vous y mettez à fond pendant quelques secondes, 10 secondes les professionnels, nous peut-être un peu plus que 10 secondes, et puis c'est terminé. La vie chrétienne n'est pas comme ça. C'est un marathon. C'est comme les 20 km de Bruxelles. On doit courir, courir, encore courir. Et on pense que la ligne d'arrivée ne va jamais venir. Mais Jésus nous dit que oui, il va revenir, mais il va tarder. Et donc, nous devons persévérer dans une foi authentique jusqu'à la fin. Les filles insensées de l'histoire n'étaient pas prêtes lorsque l'époux arriva. Et donc, il ne suffit pas pour être sauvé d'avoir fait dans le passé une profession de foi, peut-être lors d'un camp. Vous avez vous-même participé à un camp d'enfants et vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur est loin de vos priorités. Il ne suffit pas de s'être fait baptiser, d'avoir même témoigné devant les autres. Si maintenant, vous ne faites pas confiance dans la mort de Jésus. Ce qu'il faut, c'est persévérer jour après jour, après jour, après jour, dans la vie chrétienne. C'est ça la priorité numéro une pour chaque chrétien. Parfois, dans les universités, on fait des genres de fêtes des anciens. Je ne sais pas si vous avez vécu cela. On dit que tout le monde qui était là en l'an 95, qui ont été diplômés en l'an 95, entre 90 et 95, on va se rassembler, on aura une fête ensemble et on va vous demander gentiment de donner de l'argent à notre université. C'est souvent pour ces raisons-là qu'on demande aux anciens de venir. Mais si on faisait cela ici, toutes les personnes qui sont ici ce matin, si on se donne rendez-vous dans 5 ans, ici dans les locaux, est-ce que vous serez toujours en train de croire en Jésus? Dans 10 ans, peut-être certains seront déjà partis vers le Seigneur à ce moment-là. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Peut-être vous voulez faire beaucoup de choses avec votre vie. Mais la chose, la priorité doit être de continuer de croire en Jésus jour après jour. Et cela, dans la durée. D'ici 50 ans, d'être là toujours en train de faire confiance en Christ, si on n'est pas encore avec le Seigneur. Ça me fait chaud au cœur de voir les personnes âgées qui croient fermement en Christ. Et cela depuis longtemps. Ils ont compris que ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Ils ont continué, ils ont persévéré, ils croient en Jésus. Ils attendent avec impatience le retour de leur Sauveur. Mais il y en a aussi qui s'éloignent de Jésus. Peut-être qu'elles étaient dans les églises lorsqu'ils étaient jeunes, et puis par la suite, ils se sont dit, mais est-ce que c'est si important que cela finalement? Attention, ne pas penser que parce que vous connaissez bien le jargon chrétien, vous connaissez les cantiques que l'on chante ici, parce qu'on se dit protestant. Attention, ne pas penser que cela veut dire que vous êtes sauvé d'office. Peut-être que oui, et merci Seigneur, mais peut-être que vous donnez l'impression aux autres que vous êtes sauvé, mais ce n'est pas vraiment le cas pour vous. Et mais peut-être vous-même, vous êtes conscient que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Lors du retour de Jésus, cela sera révélé. Il vaut mieux agir maintenant pour devenir vraiment chrétien. Et c'est frappant dans l'histoire, n'est-ce pas, lorsque les filles insensées demandent de l'huile des filles sages, de la part des filles sages, et les filles sages disent non. C'est comme si Jésus veut nous enseigner qu'on ne peut pas se baser sur la foi de quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire, parce que je suis dans une famille chrétienne, ça va aller. Parce que je suis marié à un chrétien, une chrétienne, ça doit compter pour quelque chose, n'est-ce pas? Non, c'est chaque personne, individuellement, devant Dieu, nous devons nous positionner pour croire en Jésus. Car c'est lors du retour de Jésus que sera révélé qui est véritablement chrétien. Et deuxième chose à retenir de cette parabole, le retour de Jésus scellera le sort de tous. Le retour de Jésus scellera le sort de tous. Cela vaut pour ceux qui seront sauvés et pour ceux qui seront perdus. Verset 10, on peut lire cela ensemble. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. C'est magnifique. Celles qui étaient prêtes ont le droit de participer dans ce festin glorieux avec l'époux. Et pour nous, c'est Jésus. C'est une fête pour toute l'éternité dans le royaume de Dieu. Quelle perspective glorieuse, n'est-ce pas? Parfois, on pense que Dieu est juste un trouble fête qui veut nous empêcher de nous amuser. Mais est-ce que vous voyez l'avenir éternel qu'il prépare pour son peuple, comme un festin, une célébration de fête de mariage, mais en 1000 fois mieux, le meilleur plat que vous avez jamais goûté. la meilleure atmosphère que vous avez vécue. Mais tout cela avec Dieu au centre, et ce pour toujours, dans la présence de Jésus, notre bien-aimé. Et si nous sommes chrétiens, ça nous donne beaucoup de courage pour persévérer maintenant, n'est-ce pas? Sachant que la fin est décidée et sûre, nous aide à tenir le coup maintenant. Pour le croyant, la connaissance d'un sort éternel qui sera scellé définitivement lors du retour de Jésus est très encourageante. Mais le revers de la médaille, c'est le triste sort de ceux que Jésus rejettera. Après que les jeunes filles sages sont entrées dans la salle de fête avec l'époux, la porte s'est refermée. Et ce, définitivement. Et lorsque les jeunes filles reviennent du marché et essayent d'entrer dans la salle de fête, l'accès leur est refusé. Même lorsqu'elles font appel à l'époux lui-même. Verset 12, je vous le dis en vérité. Qu'est-ce que l'époux dit? Je ne vous connais pas. Pas dans le sens qu'il ne sait pas qui elles sont, bien sûr. Il connaît cela. Elle faisait partie de l'entourage de l'époux. Mais leur attitude négligente par rapport à lui, il démontrait un marque de manque de respect envers l'époux. C'était sans doute considéré comme une insulte considérable de ne pas avoir suffisamment d'huile pour participer à la fête. Elles n'auront pas de part à cette fête. Et ne pas pouvoir pénétrer dans une salle de fête, c'est une chose. Peut-être vous avez vécu cela. Peut-être vous vouliez, vous avez vu que quelque chose s'approche et vous voulez vraiment participer, mais la date limite, c'était le jour avant. Et vous dites, mais mince alors. Donc peut-être vous voulez inscrire votre enfant à l'école de vos rêves et voilà, vous vous rendez compte que l'inscription, c'était la semaine passée. Et vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu rater cela? Ou peut-être vous avez raté le dernier train pour rentrer chez vous. Et il n'y en a pas d'autre avant le lendemain matin. C'est terrible d'avoir ce sentiment, si seulement. Et maintenant, il n'y a plus la possibilité. Mais la réalité qui est décrite ici, c'est pour tous ceux qui ne verront jamais la vie éternelle avec Dieu. La porte sera fermée, il n'y aura plus possibilité d'avoir accès. Ce n'est pas pour les gens qui ont fait le bien, c'est eux qui seront sauvés, les gens qui ont fait le mal, c'est eux qui seront exclus. Non, pas du tout. Jésus nous enseigne que c'est seulement par sa mort à la croix que nous pouvons être pardonnés de toutes nos fautes. Et donc tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont cru en Jésus tous les jours seront sauvés. Mais tous ceux qui ont rejeté Jésus seront exclus définitivement. Peut-être on peut imaginer les bruits de la fête à l'intérieur de la porte. Et les gens se situent à l'extérieur, avec plein de regrets, de misère, de tristesse, en sachant qu'ils n'auront jamais part à cela. Et Jésus nous avertit avec des larmes de l'endroit qui s'appelle l'enfer, loin de la bonté de Dieu, loin du bonheur. Seulement, en présence d'un Dieu en colère, et ce pour toute l'éternité. Jésus n'a pas inventé cela, mes amis. C'est réel. Et dans verset 13, quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion de cette parabole? Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez d'abord sur nous-mêmes pour voir est-ce que je suis prêt. Pas est-ce que j'ai fait suffisamment de bonnes choses dans la semaine passée, non. Mais est-ce que je fais confiance dans la mort de Jésus pour mes péchés? Est-ce que je reviens à lui dans la repentance et la foi en lui demandant le pardon? Est-ce que j'essaie de vivre avec lui comme le roi de ma vie dans la repentance? Ou est-ce que je m'éloigne de lui? Veillez sur vous-même, jour après jour, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Continuez à croire en Jésus jusqu'au moment où l'époux reviendra. Nous devons aussi veiller sur les autres, je pense. Peut-être ce passage vous a fait penser à quelqu'un qui donne l'air d'être chrétien ou qui se dit chrétien, mais vous pensez que ce n'est pas le cas. Mais prions pour une occasion de parler avec cette personne, pour l'avertir. Priez qu'il vienne à une foi authentique en Jésus. Et si vous êtes ici, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Ce serait merveilleux de le faire aujourd'hui, de passer de la mort à la vie, de recevoir le pardon de toutes vos fautes, d'être réconcilié à votre Créateur, votre juge, avant qu'il ne soit trop tard. L'époux reviendra. Y sommes-nous prêts? Prions ensemble. Notre Père, quelle perspective glorieuse que Jésus l'époux reviendra un jour. Merci pour cette parabole, merci pour la richesse de cet enseignement. Merci parce que tu nous dis qu'il y aura un délai avant le retour de Jésus. Et nous te prions que nous soyons prêts dans la foi en Jésus, dans la repentance, jour après jour après jour. Afin que nous soyons là, dans la fête, à la fin des temps, avec Jésus au centre, pour toute l'éternité, et que l'on ne soit pas exclu. Et si nous sommes conscients que nous ne sommes pas encore à toi, que nous puissions venir à toi, pardon pour nos fautes, pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous la vie nouvelle en Jésus. Et que nous puissions, chaque personne dans cette salle, être dans la fête céleste pour toujours. Et cela seulement et uniquement grâce à la mort de Jésus-Christ. Nous t'en prions en son nom. Amen.